Et nous accueillons Selma au 39-21. Bonsoir Selma.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Selma et quel âge avez-vous?
J'ai 41 ans et je vous appelle de la Loire, en fait, à côté de Saint-Étienne.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Selma?
Donc, ce qui m'amène, c'est que, en fait, je vous ai contacté pour dénoncer les pratiques des MDPH.
Oui.
Et particulièrement de la MDPH de la Loire, concernant les prises en charge pour mon fils. Qui a 20 ans, qui a un plurihandicap, entre autres épilepsie sévère, autisme, trouble déficitaire de l'attention, multidis, TOC, trouble anxieux généralisé et pour couronner le tout, parce que ça ne suffisait pas, de l'acné du sommeil.
D'accord.
Voilà. Donc, bon, évidemment, tous ces handicaps ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, l'épilepsie est apparue lorsqu'il avait 15 mois. Pour tout le reste, bon, bah, il est né avec.
Oui.
Ça fait partie de la neurodiversité. Évidemment, donc, comme toutes les personnes handicapées, il a un dossier à la MDPH du département dans lequel on vit. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours accepté les décisions de la MDPH, même si je n'étais pas d'accord avec, mais par surcharge mentale, par manque de temps, par manque d'énergie, de moyens, enfin, j'ai accepté à chaque fois leurs décisions et j'ai compensé, je dirais, leur... Le peu d'aide qu'ils nous accordaient, quoi.
Oui, ils ne vous aidaient vraiment pas beaucoup, donc ?
Non, vraiment pas beaucoup du tout, compte tenu de la situation.
Ben oui, parce que c'est une situation tout de même assez sérieuse.
Oui, c'est une situation qui est très complexe, qui relève du handicap rare.
Oui.
Surtout, pour laquelle il n'y a pas de solution en France. C'est-à-dire que il n'y a pas de lieu de vie adapté à mon fils ou de solution toute faite. Donc, j'espérais que le projet de Denis Piveteau, en fait, qui est l'ancien directeur de la CNSA et qui est conseiller d'État, je ne sais pas si vous avez entendu
non,
ce projet.
Non.
Qui s'appelle « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». Donc, c'est un projet pour l'inclusion, en fait, des personnes handicapées.
Oui.
Pour leur permettre d'avoir une solution adaptée, propre à leurs besoins, en inclusion et dans le respect de leur projet de vie. Et c'est un projet, donc, qui est soutenu par Sophie Cluzel. Mais malgré ce projet, les MDPH n'accordent toujours pas les droits nécessaires au respect de ce projet-là, quoi. Donc, y a deux choix, en fait. Enfin, soit je me contente de ce qu'ils proposent, à savoir 3h15 d'aide humaine par jour,
mmh.
pour compenser tous les handicaps de mon fils, tous ses manques d'autonomie. Le fait aussi... qu'il a un besoin de surveillance et de soins, dû particulièrement à son épilepsie, qui en plus est une épilepsie nocturne. Donc il faut une surveillance de nuit, en plus de ses besoins en journée.
Oui.
Et donc 3h15 d'aide humaine, autant dire que c'est complètement dérisoire par rapport à ses
c'est
besoins.
Très très peu, très très peu.
Oui, voilà, ou alors... la solution serait l'institutionnalisation, voire la psychiatrisation, comme malheureusement beaucoup d'autistes qui sont sans solution et qui se retrouvent hospitalisés dans des unités psychiatriques pendant des années. Quoi,
dans lesquelles ils n'ont rien à faire.
Exactement, dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Et jusqu'à, pour certains, trouver une solution qui n'est pas en France, mais qui est dans la plupart des cas en Belgique.
Qui prend les autistes français en Belgique ?
Oui, oui.
D'accord, mais
Oui.
Les frais sont couverts par qui en ce...
Les frais sont couverts par la France. Et c'est là où tout le non-sens, en fait, à vouloir réaliser des économies sur le dos des personnes handicapées, sur des personnes qui sont vulnérables, on augmente les dépenses. On augmente des dépenses d'hospitalisation, on augmente des dépenses d'institutionnalisation et on augmente les dépenses de fuite vers la Belgique. Donc en fait, ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça ne coûterait au départ si les lois étaient respectées, en fait. C'est tout ce que je demande, comme beaucoup de parents d'enfants handicapés et comme beaucoup de personnes handicapées. Voilà.
Et on vous répond quoi, en fait? On vous répond 3h15 et c'est tout?
Oui, on me répond 3h15 et c'est tout. J'ai fait plusieurs recours. Hein. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, j'acceptais les décisions par manque de temps, par surcharge mentale. Jusqu'en 2019, en fait, où j'ai appris que j'avais un cancer incurable, où là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je défende les droits de mon fils, en fait, pour qu'il puisse vivre dignement et en sécurité, parce que la loi le prévoit et le permet.
Oui.
Donc je me bats contre la MDPH depuis 2019. Au départ, j'ai pensé que c'était une mauvaise interprétation de la situation, une mauvaise lecture de leur part de la situation, du fait de la complexité. Donc j'ai étayé le dossier par plusieurs pièces médicales, paramédicales, par plusieurs certificats et attestations de médecins, donc médecins, neurologues, épileptologues, médecins traitants, docteurs en psychologie, orthophonistes, enfin bon, voilà. Et j'ai fait aussi appel à des dispositifs comme l'équipe relais handicap rare et le Centre national de ressources handicap rare et épilepsie sévère, donc qui prend en charge les personnes comme mon fils qui ont une épilepsie sévère avec d'autres troubles associés et qui sont sans solution. Et donc malgré, je dirais, toutes ces interventions et malgré tous ces intervenants qui ont fourni des explications sur la situation de mon fils, la MDPH campe complètement sur ses positions et n'accorde pas ce à quoi mon fils pourrait prétendre. Et parce qu'au départ, effectivement, je me disais que venant de moi, il penserait certainement, et d'ailleurs ils me l'ont dit, hein, que je suis la mère et que je m'inquiète pour rien. En gros, j'affabule quoi la situation. Et malgré le fait d'avoir fourni des attestations d'experts, en fait, hein, qui sont complètement factuelles et dénuées d'émotion, il n'y a pas d'amour maternel de leur part, ni quoi que ce soit. Malgré ça, ils restent sur 3h15 d'aide humaine par jour.
Mais ça ne bouge pas.
Non, ça ne bouge pas, donc je m'interroge sur le pourquoi de ces décisions, en fait.
Est-ce que c'est un manque de moyens, en fait? Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait, là-dessus?
Non, on me dit rien. On me dit que pour eux, leur calcul est juste, quoi. Et j'ai essayé à maintes reprises donc, de leur prouver, parce qu'ils m'avaient notifié une fois un appartement inclusif à Saint-Étienne,
oui,
pour des personnes autistes. Et je savais que mon fils ne relevait pas de ce dispositif, parce que ses besoins sont beaucoup trop importants. Donc j'ai quand même fait une demande pour ces appartements inclusifs. J'ai eu la réponse qui me dit voilà. Mon fils ne relève pas de leur dispositif parce qu'il a des besoins d'accompagnement qui sont beaucoup trop importants pour leur structure, qu'ils n'ont pas de surveillance de nuit et que mon fils en a besoin. Enfin, voilà. Et malgré ça, On ne m'accorde pas plus de temps de surveillance de nuit, etc. Donc ça veut dire en gros qu'ils estiment que mon fils peut vivre en autonomie avec 3h15 d'aide par jour. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque mon fils relèverait même d'un foyer d'accueil médicalisé. Et je pense effectivement que...
Il a besoin d'aide, d'une aide pratiquement 24 heures sur 24, non? D'une surveillance...
Oui, complètement, pour tout. Pour tout, pour les actes de la vie quotidienne, pour la surveillance, pour les soins, pour le stimuler, pour le guider, pour tout.
Pour tout.
Vous savez, mon fils est sous tutelle pour 10 ans. Même donc, il y a un médecin expert du tribunal qui fait un certificat médical avec toutes les données.
Oui.
Donc, ce médecin a certifié que les troubles de mon fils étaient irréversibles. Il est sous tutelle pour 10 ans, ce qui est le plus haut point de privation de liberté pour quelqu'un. Pour une durée la plus haute prévue par la loi. Donc, ça donne une indication sur la vulnérabilité de mon fils et son taux de handicap. Malgré ça, rien n'est fait. Et je pense que derrière, il y a un réel souci de financement, effectivement, parce que la PCH Edumène est financée par les départements. Ce n'est pas une aide qui est financée par les caisses nationales. Cette aide-là dépend des départements. Donc du coup, elles sont révisées, enfin, elles sont accordées et révisées toujours vers le bas. D'ailleurs, il y a eu clairement des recommandations hein, des hauts fonctionnaires de l'État qui demandent au département et au NDPH de réviser leur stock de personnes qui perçoivent l'allocation handicapée, entre autres. Donc il y a une réelle volonté d'économie et c'est là toute la perversité parce que la loi prévoit tout ce qu'il faut pour étayer, accompagner, aider les personnes en situation de handicap.
Vous voulez dire que c'est obligatoire, c'est ça?
C'est complètement obligatoire.
Oui.
Complètement, c'est des lois. Mais malgré ça, les MDPH ne respectent pas cela. Et ne respectent pas cela, n'écoutent pas... Je parle en mon nom, mais aussi, enfin, je sais que toutes les personnes, malheureusement, qui sont dans cette situation-là, pensent la même chose que moi et vivent cette maltraitance institutionnelle de la même façon que je la vis. Les MDPH ne respectent pas et n'écoutent pas l'expertise des parents. Cette expertise qui a été d'ailleurs théorisée par un sociologue qui s'appelle Jean-Sébastien Edelimann, je ne sais pas si j'écorche son nom ou pas, et qui en fait dit que les parents d'enfants handicapés sont des experts profanes, qu'on a appris les besoins de nos enfants de manière empirique et qu'on est... je dirais, les personnes ressources, mais malheureusement pas entendues. Que tout le système administratif est complètement verrouillé et que ces verrous-là, qui sont des verrous financiers, hein, vont à l'encontre des lois, vont à l'encontre des recommandations de la CNSA et empêchent les possibilités d'accompagnement de façon pérenne et efficace.
Ouais, de toute façon, c'est une manière de justifier qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Tout simplement, non? Vous ne pensez pas?
Exactement. C'est exactement ça.
Et donc, malgré la loi qui les oblige à ça, vous avez les moyens de porter plainte, en fait, là, vous porteriez plainte
non,
contre...
Non, mais c'est ça, c'est ce qui est terrible, en fait, dans les situations comme la mienne, c'est que déjà, le handicap d'un enfant précarise. Parce que, par exemple, moi, pour Enzo, étant donné que je n'avais pas d'aide de la MDPH, j'ai dû financer par moi-même, par mes propres moyens, toutes les prises en charge, qui me coûtaient environ 800 euros par mois. Donc, c'est des privations extrêmes pour toute la famille. Je suis seule avec mes deux enfants, mais du coup, des privations pour le petit frère. Donc, ça veut dire pas de sport, pas d'activité extrascolaire. Enfin, voilà, on mise tout sur les prises en charge pour notre enfant. Et du coup, c'est, comment dire, on a peu de moyens, un porte-monnaie percé par les prises en charge. Mm-hmm. Donc, on n'a pas les moyens de prendre un avocat pour défendre les droits de nos enfants au tribunal. Parce que bien sûr que je pourrais porter plainte contre l'État pour non prise en charge de mon fils.
Oui.
Mais financièrement, faudrait que j'aie 3000 euros pour chaque procès, en fait, que je ferais.
Et il n'y a pas d'association qui peut vous accompagner dans ce combat ?
Alors, il y a des associations qui sont aidantes.
Oui.
Par exemple, l'association Autisme France qui a une couverture, qui propose une aide juridique pour les parents qui veulent aller en procès, mais il faut être, bien sûr, adhérent depuis plus de 6 mois avant le litige, quoi.
Oui.
Donc, ce qui n'est pas mon cas, donc voilà.
Et donc, en fait, vous n'avez aucun moyen. Vous devez vous inquiéter pour l'avenir de votre enfant, mais surtout, voilà. vous démener toute seule.
Donc, voilà, c'est ça. Donc, on n'a aucun moyen. Je me démène toute seule. Donc, jusqu'à ce que, quand j'étais en bonne santé, je compensais tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis condamnée par une maladie, donc...
Vous êtes condamnée par une maladie qui vous donne encore... vous avez une visibilité sur ce qu'elle...
Je n'ai pas de visibilité.
D'accord.
Voilà, je suis en sursis, je ne sais pas pour combien de temps. Et je n'ai pas de visibilité. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est que va-t-il advenir de mon fils après mon décès? La question, elle est là. Et cette question-là, ce à quoi je fais face, c'est la peur de tous les parents d'enfants handicapés. C'est des choses que certains parents disent ouvertement, d'autres moins, mais c'est la peur de tous les parents d'enfants handicapés. Et pour tout vous dire, j'en faisais partie, et il y a des parents qui le disent. On en arrive à souhaiter le décès de son enfant, on en arrive à souhaiter qu'il parte avant nous.
Oui. Parce que là, si vous arrivez quelque chose, que deviendrait votre enfant? C'est hôpital psychiatrique, comme vous l'évoquiez au début?
Bah écoutez, je vois pas comment, avec 3h15 d'aide humaine par jour, ça peut tenir dans un logement lambda, en inclusion. C'est pas possible.
Non, mais c'est pas impossible. Impossible.
C'est impossible. Donc, effectivement, le risque... donc, mon fils a 20 ans, pour remettre un peu les choses aussi. Je crois que j'ai pas dit son âge. Mais
non.
Le risque, c'est
que...
Voilà,
si, vous me l'avez dit, pardon. Vous me l'avez dit.
Ah, d'accord.
Il a 20 ans.
Je suis son seul repère. Donc, il a d'autres sources quand même à côté, Il a son orthophoniste, il y a son groupe d'habileté sociale, il y a d'autres choses, mais
Oui, mais
je
enfin,
suis
s'il
son
vous arrive,
principal repère.
oui, puis s'il vous arrive quelque chose demain,
Voilà.
qui coordonne tout ça pour lui, qui s'occupe
Exactement.
de lui, c'est le souci,
Exactement.
c'est
Et
terrible.
le, avec ce qui me, avec ce qui m'accorde aujourd'hui 3h15, donc ils sont, en plus, ils manquent pas d'humour, hein, la MDPH, hein, vous savez, dans leur notification, ils peuvent mettre des recommandations. Donc, ils me conseillent gentiment d'utiliser ces 3h15 pour payer des prestataires, donc c'est-à-dire des auxiliaires de vie. Alors oui, ça serait bien si, si je pouvais, mais ce qui m'accorde en tant que, qu'aidant familial ces 3h15-là, ce n'est pas de l'argent que j'utilise pour moi. Normalement, ça devrait être, ça devrait compenser une perte de salaire, en fait, cet argent, du fait de la cessation d'activité pour s'occuper de son enfant qui est handicapé. Or, cet argent-là, il ne me sert même pas à moi, il ne sert même pas, il me sert encore à payer des moyens techniques pour mon fils qui sont très onéreux
Oui.
et que la MDPH refuse de prendre en charge aussi, alors que dans les textes, elle devrait prendre en charge ses moyens techniques à hauteur de 75% de leur prix. Et là, il m'en propose, par exemple, pour un détecteur de crise d'épilepsie nocturne qui coûte 1 800 euros, il me propose de me rembourser 300 euros. Voilà. Donc cet argent que qu'il me donne de PCH aidant familial, en fait, ça me sert à payer des moyens techniques pour mon fils, ça me sert à payer ses ateliers de oh zut, d'habileté sociale.
Oui.
Voilà, c'est des choses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et c'est des choses qui sont onéreuses. Donc, c'est pas un caprice que je fais, c'est pas une volonté de m'enrichir sur le dos de la société. C'est des besoins qui sont réels et qui doivent être compensés. C'est les parents d'enfants handicapés ou même les personnes handicapées elles-mêmes, c'est quand même terrible parce que c'est le gouvernement qui a choisi la compensation financière du handicap en France. C'est pas nous qui l'avons choisi,
Oui.
c'est le gouvernement qui a choisi cette forme de compensation. Or, quand on demande que les compensations soient effectives et répondent aux besoins de nos enfants, on se retrouve dans la peau de quelqu'un qui veut profiter du système, qui veut vivre de l'aide sociale, et c'est très humiliant en fait comme position. C'est très difficile d'être dans une position comme celle-là.
Je veux bien, oui. Je ne sais pas quoi vous dire parce que tout ce que vous évoquez est tellement d'une gravité profonde que ça me laisse sans voix, pour tout vous dire.
Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'instance supérieure à la MDPH
Oui, qui pourrait.
qui veille à ce que les lois soient respectées. Alors, oui, bien sûr, il existe des recours au tribunal. Seulement, les tribunaux n'ont pas. Donc, ça se passe, en fait, c'est la chambre sociale des tribunaux. Donc, bien souvent, malheureusement, les juges ne choisissent pas d'être, de siéger dans cette chambre sociale, au sein de cette chambre sociale. Et donc, il y a un certain turnover. Et du coup, il n'y a pas d'expertise, même dans les tribunaux, des lois sur le handicap, des recommandations de la CNSA. Il manque cette expertise-là, même dans les tribunaux, malheureusement. Donc,
Mais donc c'est un immobilisme total.
oui, et une impunité aussi, parce que là, clairement, enfin, c'est de la maltraitance, quoi. c'est de la maltraitance. On ne peut pas laisser quelqu'un sur le carreau alors que notre mission principale est de veiller à sa protection, de veiller au respect des lois qui la concernent. Les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres.
Ben les handicapés sont bien évidemment des citoyens comme les autres. Et non, puis j'en reviens à ce que vous me dites, la loi qui oblige à ce qu'on s'occupe de ces personnes. Vous avez tenté de vous rapprocher de l'UNAFAM, je suppose que vous avez essayé quand même.
Oui, je me suis rapprochée de l'UNAFAM. Sur le conseil d'ailleurs, parce que j'ai saisi en mois de décembre, j'ai écrit à tout le monde, hein, du maire de ma commune au maire de Saint-Étienne, le préfet, plusieurs députés, Sophie Cluzel,
Oui, et
Madame Macron,
Sophie Cluzel
enfin.
ne vous a pas répondu.
Alors, Sophie Cluzel est intervenue auprès du directeur de la MDPH de la Loire
Oui.
en lui demandant d'être vigilant avec le dossier d'Enzo.
Oui.
Malgré ça, ils restent sur leur position. Donc, je suis passée en commission après l'intervention de Sophie Cluzel. Donc, j'ai rencontré les membres de la CDAPH, en fait, hein, de la commission des personnes qui siègent à la MDPH et qui décident des droits qu'ils accordent ou pas. Donc, je suis passée en commission après l'intervention de Madame Cluzel,
Et rien n'a bougé.
que je remercie d'ailleurs pour son intervention,
Mmh.
et rien n'a bougé non plus, quoi.
On
Donc,
va.
ils sont dans cette toute-puissance.
Oui, mais c'est très, très étonnant ce que vous me
Oui.
dites, malgré l'intervention de la secrétaire d'État, c'est de Madame la ministre même. On va conclure après l'information, si vous voulez, l'info qui arrive,
Oui.
Selma. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord? 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou le 7-39-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, pour vous nous envoyer vos commentaires, vos questions, comme vous le faites ce soir pour le témoignage de Selma. Valérie vous demande, Selma, si... vous avez envoyé un courrier à l'ARS, mais il me semble que... est-ce que vous l'avez fait, Selma, envoyer
Non.
Non?
Non, je n'ai pas envoyé de courrier à l'ARS.
Bon, mais en même temps, malgré l'intervention de Sophie Cluzel, que ça n'ait pas bougé, c'est vraiment très surprenant.
Oui.
Très surprenant.
Oui.
Et je suppose que lorsqu'on vous donne... En tout cas, lorsqu'on vous répond, on ne vous donne aucune justification de la décision.
Absolument, on ne me donne aucune justification. La dernière fois que je les ai rencontrés, donc c'était le 9 mars, et je leur ai dit, durant la commission, je leur ai demandé de me donner des solutions, de me trouver des solutions pour mon fils.
Oui.
Si vraiment... Ils ne peuvent pas, enfin, ils estiment que ces besoins de compensation s'élèvent à 3 heures par jour, 3h15 par jour. Je leur ai demandé de me trouver des solutions. Ils n'en ont pas, ils n'en ont aucune. Enfin, il n'y a pas de solution. Mon fils n'a pas de solution. Il faut savoir quand même que, bon, il y a des besoins de compensation, d'autonomie et tout ça qui sont liés à l'autisme, à ces troubles. Et à d'autres choses, et aux états de post-critique aussi après les crises. Mais il y a quand même une chose que je n'ai pas dit, c'est que durant les crises d'épilepsie, donc mon fils a plusieurs crises d'épilepsie par semaine, qui sont pendant son sommeil, il y a quand même, voilà, il y a un risque de chute du lit, il y a un risque d'étouffement, il y a un risque de décès, les épilepsies nocturnes ont un risque de décès qui est 5 fois supérieur aux autres épilepsies. En fait, la personne est seule, elle ne peut pas prévenir les secours, elle n'est pas en état de le faire puisque elle n'est plus consciente. S'il y a une chute et qu'il y a un traumatisme crânien, enfin, la personne peut rester des heures au sol, sans personne pour lui prodiguer les soins nécessaires. C'est juste insoutenable, en fait, de se dire qu'en France, en 2021, on puisse accepter ça, malgré les textes en vigueur, quoi.
Oui.
C'est juste pas possible. Ou alors, ne faites plus de lois. Faites des lois qui correspondent à la réalité. Mais ne faites pas de lois. C'est comme si vous allez manger dans un restaurant, vous avez une carte qui est merveilleuse, et que lorsque vous commandez, ils n'ont rien en stock, quoi. Enfin,
oui, oui.
C'est juste incohérent. Ne faites pas de lois que vous n'êtes pas capable de respecter. C'est pas possible. C'est pervers. Alors, on mise tout sur l'apparence et on mise tout sur la vitrine alors qu'on n'a rien en magasin. C'est révoltant, c'est fatigant. J'aime autant vous dire que là, dans mon état de santé, j'aurais d'autres choses à faire que de me battre contre la MDPH pour faire respecter les droits de mon fils. Je trouve ça... Même indécent et inadmissible. Pardon. Qu'on me vole. Qu'on me vole la fin de ma vie, alors que je devrais profiter des derniers moments de vie que je peux avoir avec mes enfants. Et la MDPH fait ça.
Non, mais il est certain que c'est incompréhensible qu'on ne vous donne aucune solution, aucune justification. Et ce soir, j'en appelle vraiment à ces personnes qui travaillent à la MDPH des Pays de Loire, hein, vous m'avez dit. Hein,
non, de la Loire.
De la Loire.
De Saint-Étienne, oui.
De Saint-Étienne, de revoir cette position, parce que c'est intenable. Pour vous, c'est intenable. En fait, où est votre fils, là? Vous l'avez à la maison, du coup?
Oui, je l'ai à la maison. Oui.
Et bien évidemment, vous ne pouvez pas faire autre chose, vous, que de vous en occuper. Ça vous contraint à rester à la maison.
Oui, mais c'est pas... vous savez, mon problème, c'est pas mon fils, j'ai envie de dire.
Non, non, bien évidemment.
J'ai une amie qui a aussi des enfants handicapés et qui dit voilà, que le plus gros handicap auquel elle doit faire face, c'est pas le handicap de ses enfants, c'est le handicap de la MDPH, quoi.
Oui.
C'est ça, notre plus gros handicap. En tant que personne handicapée, en tant qu'aidant familial, le plus gros handicap auquel on doit faire face, c'est la MDPH.
Écoutez, Selma, je vous souhaite en tout cas d'y arriver. N'hésitez pas à nous tenir au courant, bien évidemment, s'il y a une évolution possible. Essayez ce courrier à l'ARS, mais vous avez tellement fait de choses que... Mais ça vaut peut-être le coup de leur expliquer votre situation. Hein. C'est Valérie,
oui,
au 739-21 qui vous... Peut-être en expliquant tout ce que vous avez effectué comme démarche. De toute façon, toute aide aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est bonne à prendre. Hein,
oui, complètement.
Donc, il faut tenter encore. Et, bon, je me permettrai de passer. Je connais très bien quelqu'un qui est toute proche de la ministre, qui est une amie, et je l'ai régulièrement au téléphone. Donc, je me permettrai de lui dire d'écouter le podcast et je lui donnerai vos coordonnées, si vous voulez.
Merci infiniment.
Je vous en prie, je vous en prie.
Merci infiniment,
Je
Olivier, pour votre
suis
bienveillance et votre
là
gentillesse.
pour ça. Je suis là pour ça. Je vous souhaite bon courage, Selma.
Oui, merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
À vous aussi, au revoir.